Alors, comme la semaine passée, je vais vous proposer un petit tableau récapitulatif pour vous remettre ce qu'on a déjà dit en mémoire. Alors, la voix ancienne, c'est-à-dire celle de Moïse. Alors, dans cette disposition-là, l'objectif, c'est d'avoir une vie bénie par Dieu, parce qu'on lui obéit, parce qu'on fait ce qu'il nous dit de faire. Et le principe qui vient, puisque je fais ce qu'il me dit de faire, je suis béni ici et maintenant. Le principe, c'est justement suivre des principes, en attendre des bénédictions, et puis tenter de s'y tenir, de s'y arrimer le plus possible afin de rester dans la bénédiction de Dieu. Dans ce genre de modèle, il est clair que la pression est totalement sur nous parce que le danger est toujours forcément de désobéir, et parce qu'on désobéit, de perdre la bénédiction de Dieu. Dans cette modalité-là, vous êtes sous la loi de la linéarité, c'est-à-dire sur cette quasi-équation mathématiques qu'il voudrait que parce que l'on fait A pour arriver à B, survient ce que l'on attend ou ce que l'on désire. J'élève mes enfants selon des principes bibliques, par exemple, et je sais que parce que je les élève comme ça, ils deviendront des êtres responsables. Parfois oui, parfois non. Alors bien sûr, si vous les élevez comme des cloches, ils vont devenir des cloches. Ce sens-là est plus sûr. Mais n'empêche que parfois, des cloches donnent des gens très chouettes. Mais ce n'est pas de leur faute. La voie nouvelle en Christ, là l'objectif est simplement d'avoir une grande espérance dans ce que le Saint-Esprit peut faire afin de nous amener dans une plus grande connaissance et proximité de Dieu. L'objet, ça, il faut vraiment se le foutre dans la boule, hein, si je peux dire ça comme ça. Ce que Dieu désire, ce que le Christ désire, c'est que nous devenions des intimes et que nous fassions, nous vivions une vie qui l'honore tout simplement parce que nous avons appris à l'aimer en tant que personne. Quand, même au niveau humain, c'est la même chose. Moi, quelqu'un qui me dit quelque chose et que ça me touche, je me dis ça, je vais le bouger par rapport, par amour pour cette personne, parce que c'est une personne que j'aime qui me le demande. Si je n'aime pas cette personne, je m'entends de ce qu'elle me demande. Non? Si. Vous n'êtes pas convaincu. On implore forcément sur le chemin, parce que nous ne sommes pas parfaits, vous le savez comme moi, donc on implore la miséricorde, on lui demande de nous pardonner, parce que nous ne sommerons jamais ici-bas ce qu'il désire, tout à fait en tout cas. On apprend dans ce processus de demande de pardon perpétuelle et quotidienne, on apprend à quoi? À découvrir la grâce. Quand on demande pardon pour une désobéissance, on découvre aussi au même moment que Dieu nous aime, malgré ces désobéissances. La grâce, c'est pas seulement un principe qui nous permet d'être sauvés, c'est aussi un principe de vie qui doit nous alimenter. On expérimente quoi? On expérimente le repos promis par Dieu. C'est la paix, quoi. La paix intérieure de se savoir aimé par un Dieu qui ne change pas. Vous fassiez des andouilles ou pas, il vous aime. Et dans ce cas de figure, quand on expérimente ça, quand on sait ça, on comprend ça profondément, on lâche prise, quoi. Il n'y a plus de pression. Et là, quand vous apprenez à vivre ça, vous êtes dans ce que la Bible après appelle, pardon, la loi de la liberté. C'est la liberté que le Christ vous a appelée, cette liberté-là que notre Seigneur faisait allusion. Alors, si vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai un peu parlé du personnage de gauche. Pour ceux qui ont une petite culture littéraire et ou cinématographique, c'est Bilbon Sacquet en français. Vous connaissez les romans de Tolkien. C'est un hobbit de la comté. Je ne vais pas vous faire un cours sur Tolkien. Il faut quand même savoir que Tolkien était chrétien, s'est converti à travers son amitié à C.S. Lewis, un autre grand écrivain, épreuve comme lui d'Oxford, à Oxford, au XIXe siècle. Et que c'est suite à sa conversion que Tolkien a écrit Bilbon le Hobbit et la suite, Le Seigneur des Anneaux, qui nous explique simplement le bataille qui fait rage entre Dieu et les forces du mal, pour faire simple. Alors maintenant, vous connaissez un peu, hein, notre ami Bilbon le Hobbit. À droite, c'est l'apôtre Paul. Il y a un point commun entre les deux. En fait, le point commun auquel je fais allusion, c'est qu'ils ont tous les deux quitté une petite vie pépère. Ils avaient une vie bien rangée, bien dirigée, bien ordonnée. Ils savaient qui ils étaient, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, et ils avaient leur avenir tout tracé. L'un dans le pharisianisme de son époque, l'autre dans sa belle région verdoyante, parce que dans les romans de Tolkien, la comté, c'est une région où il y a des cours d'eau, il y a des herbes fruitières, des vergers, des tomates. Et le hobbit, il aime bien boire de la bière et contempler son potager. C'est un peu. Donc lui, il est bien là. Il était vraiment bien. Bilbon. Paul, il a tout abandonné, tout ce qu'il était, tout ce qu'il connaissait pour participer à la plus fabuleuse des aventures, connaître profondément le Christ et le servir. Et Bilbon aussi a quitté sa chère maison remplie de réserves de victuailles en tout genre où il attendait patiemment que le sifflement de sa théière annonce le thé de 5 heures. Il a préféré lui aussi vivre une vie d'aventure à la recherche d'un fabuleux trésor plutôt que de rester dans son petit confort douillet tout en passant, parce que c'est ça le drame, tout en passant à côté de la vraie vie. Et une fois cette voie empruntée, une fois qu'on est parti à l'aventure, une fois qu'on a goûté à cette vie, il est quasi impossible de revenir en arrière, à ses pantoufles et son petit thé de 5 heures. Comme l'a dit très justement le père Stan Rogier, une des questions fondamentales de l'existence est de savoir si on décide d'accrocher sa vie à une étoile ou une pantoufle. Si je fais des stats, une moyenne au niveau statistique, je pense qu'on a plutôt une tendance assez mécanique et naturelle à accrocher sa vie à une pantoufle, hein, me semble-t-il. Alors, il faut bien prendre conscience que ce choix, parce que tout est choix dans la vie, hein, ce choix a une portée éternelle et est une chose que nous devons vraiment comprendre, c'est que la voie ancienne, dont j'ai rappelé les principes, est en fait un refus de vivre déguisé. C'est un refus de vivre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Logiquement, vous vous posez la question, hein. Parce qu'elle exige que quelque chose d'inférieur, de moindre que mon identité véritable en Christ, prenne l'ascendant en moi. Elle vous propose moins que ce que Dieu vous propose. C'est une vie au rabais. On est loin de la vie abondante dont Jésus parle. La voie ancienne, c'est vrai, elle détecte en nous les désirs de notre cœur, des désirs de signification, d'amour, d'épanouissement, de liberté. Mais le problème, c'est qu'elle reste à la surface des choses. Elle ne creuse pas cette voie-là. Elle ne vous aidera jamais à combler cette béance en vous. Ce qui signifie que dans la pratique, nous pouvons être chrétiens et ne rien vivre avec Dieu en termes de rapport personnel véritable. Ne pas connaître la puissance de son amour, ne pas connaître sa paix, cette paix qui n'est, et c'est, je cite Paul, pas de ce monde, et qui peut, par exemple, et ça c'est David qui dit, dans le psaume 23, qui peut, à certains moments de notre vie, nous permettre de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Si vous n'avez pas cette vie profonde, il y a certaines circonstances de votre vie qui vont vous terrasser et vous resterez par terre. Ce n'est pas méchamment que je dis ça, c'est une réalité qu'on expérimente. Il y a plein de chrétiens qui lâchent la foi parce qu'ils se sont ramassés des petites tuiles, des grosses tuiles, parfois toute la maison. Et ce n'est pas par critique, hein. C'est difficile, on ne va pas dire que c'est super de prendre des contrariétés ou même des épreuves dans la vie. Mais certains de ces épreuves les laissent totalement terrassés parce qu'ils avaient une forme religieuse de vie. Ils n'expérimentaient pas la vraie vie. Donc c'est justement cette intimité et cette paix que recherchent tous les hommes, sans le savoir. C'est donc cette intimité et cette paix qui est susceptible d'interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui nous entourent. Toutes ces personnes qui cherchent le bonheur ici-bas, parce qu'on leur a rien proposé d'autre, au travers de tous les palliatifs imaginables, sans savoir en fait qu'à travers toutes ces compensations systématiques, ils sont à la recherche de Dieu. C'est Dieu qu'il recherche, sans le savoir. George MacDonald, un pasteur anglais du 19e, a raison, selon moi, quand il affirme cette terrible vérité qui s'avère pourtant être en même temps un fabuleux message d'espoir. Quand un homme frappe à la porte d'une maison close, c'est en réalité Dieu qu'il cherche. Mais il ne le sait pas. Alors, vous aurez compris, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous frappent aux portes des maisons closes. En France, vous pourriez, parce que c'est interdit depuis 1962. Oui, c'est ça. Hein. Oui, je vous le dis plus crûment, les hommes qui vont voir les putes, c'est Dieu qui cherche, hein, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors, c'est peut-être excessif ça, ce qu'il dit, mais vous pouvez, par exemple, remplacer la maison close par l'alcool, les stupéfiants. Là, on va se dire, oh, oui, ça, c'est pas bien. Oui, mais il y a la réussite sociale, ça paraît déjà beaucoup mieux. La famille, l'argent, la gloire, ben, le bonheur, quoi. Et même, ça c'est la cerise, même la religion. Même la religion. Alors la question qu'il faut se poser en tant que chrétien, dépositaire de cette paix, dépositaire de ce salut, dépositaire de cette grâce offerte par Dieu, de cette nouvelle vie qui est en nous, ben, les personnes autour de nous, si l'Église est encore Église, si le Christ a inventé l'Église, s'il nous a laissé ici-bas, c'est pour témoigner de cette paix, de cette grâce, de ce bonheur profond qui ne se trouve qu'en Dieu. C'est pour ça qu'on est encore là. Et c'est pour ça qu'on doit être ce transmetteur de vérité et de vie pour que les autres arrêtent de chercher la réponse à leur vie d'intérieur autre part qu'en Dieu. Mais si nous, tout ce que nous avons à proposer en tant que chrétiens, c'est les mêmes réponses qu'eux, les mêmes compensations, les mêmes palliatifs, à quoi est-ce qu'on sait ? On ne sert pas à grand-chose, mes amis, me semble-t-il. Hein. Et il ne faut pas trop faut pas être surpris de tout ça, parce que il y a déjà, ce texte n'est pas d'hier, hein, il y a 2600 ans, Dieu a dit quelque chose à son peuple d'Israël qui, me semble-t-il, est encore trop souvent valable pour nous dans nos vies aujourd'hui aussi. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. C'est ce que le Christ dit, hein, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Pourquoi ? Ben pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Je suis là à disposition, je suis leur Dieu, la source de leur vie. J'ai donné ma vie pour eux et ils vont chercher le bonheur ailleurs qu'en moi. Donc l'ancienne voie néglige de découvrir notre désir le plus pur, le plus fort, celui d'être en présence d'une personne parfaite et aimante. Le désir de contempler la sainteté absolue comme un peintre débutant regarde une toile de Rembrandt, par exemple, en se disant « Ah, c'est quand même fabuleux, quoi !» Mes amis, sur l'ancienne voie, on ne prend conscience que des désirs tournés vers l'intérieur, vers nous. On fonctionne uniquement à partir de nous et pour nous. Donc c'est une voie qui, tout en prétendant nous rapprocher du bonheur pour les uns ou de Dieu pour les autres, pour ceux qui sont dans la religion, ne fait que nous isoler, nous laissant seuls avec nous-mêmes. Et contrairement à ce que nous pensons peut-être, nous ne pouvons rien pour nous. Vous ne pouvez rien pour vous-même, rien du tout. Pour la voie ancienne, en fait, le christianisme ne se soucie que de satisfaire nos désirs par tout les moyens possibles. La plupart, j'en vois quand même peut-être pas toutes les semaines, mais ça m'arrive. Je suis en contact avec plein de chrétiens qui ne vont plus nulle part depuis des années, qui veulent plus qu'on leur... Et je ne dis pas que ce ne sont pas véritablement de chrétiens qui sont passés par cette nouvelle naissance, qui sont nés d'en haut, qui ont reçu l'Esprit. Mais comme ils se sont engagés très vite après leur conversion, église aidant parfois, parce qu'on enseigne l'ancienne voie dans beaucoup d'églises, ils s'engagent sur ce chemin. Et là, forcément, comme Dieu doit les bénir, puisqu'il les aime, quand ils ne sont pas bénis selon leurs critères, quand quelque chose de mal leur arrive dans la vie, ils ne comprennent plus rien. Et ils les abandonnent. Et voilà le dragon dont je parlais, parce que dans la vie du Hobbit, il y a un dragon dont j'en ai parlé. Allez peut-être revoir le message, si vous n'étiez pas là dimanche passé, c'est intéressant. Et voilà, il est beau bon dragon, hein, si on peut dire ça comme ça. Et voilà le dragon qui nous murmure, à nouveau, mais tu n'as pas besoin d'être abattu et découragé. Tu n'as pas besoin d'être découragé. As-tu participé à la dernière conférence sur la vie spirituelle ? On va te donner des méthodes pour devenir quelqu'un de bien spirituellement. Tu devrais lire le nouveau livre qui promet de dévoiler le secret d'une vie de famille heureuse. Ah, il y a en ville, je ne sais pas si tu sais, un nouveau thérapeute qui aide vraiment les gens à sortir de leur dépression. Et la prière, hein, il existe de toutes nouvelles approches fascinantes. Tu devrais te renseigner, ça pourrait t'aider. Cette approche semble donner de super résultats. Alors, rassurez-vous, je n'ai rien contre toutes les choses que je viens d'énumérer, et c'est plus important encore, Dieu non plus. Sauf lorsqu'elles deviennent, encore une fois, un palliatif à la prise de conscience que nous avons un problème plus fondamental. Et ce problème, c'est qu'une bonne partie de nos problèmes ne sont que les symptômes d'une incompréhension profonde de qui est Dieu et en quoi consiste le chemin à la suite de Jésus. Et dans ce cas, toutes les aides que nous recevons ne feront que renforcer notre désir de rester sur l'ancienne voie, de continuer à fonctionner comme nous fonctionnons. Alors je ne sais pas si vous savez, parce que vous n'êtes peut-être pas conscient, qu'il y a quelque part un dragon en liberté dans votre vie, Mais mes amis, le dragon, il fait en paix. Tous les jours, il fait ce que je fais le dimanche matin. Tous les jours, le dragon prêche. Il sait, c'est pour ça que je dis prêcher, il sait comment rendre la Bible pertinente par rapport à nos besoins fondamentaux. Seulement voilà, comme le centre de son discours religieux est centré sur nous et pas sur Dieu, il n'y a qu'un pas entre ce discours et l'encouragement au divorce, à la pornographie ou à la licence morale. Car si tout ce qui importe, c'est d'être heureux selon le cours de ce monde, les plaisirs que nous procure le fait de pécher, parce que ça nous arrive, de sortir donc de la dépendance de Dieu, nous sembleront d'autant plus raisonnables que notre vie se désintègre et connaît des turbulences. Quand je vais pas bien, ben je bouffe du chocolat, j'ai quand même le droit. Ça, c'est pas trop grave, le chocolat. Souvent, à partir de 3 tablettes côte d'or par jour, là, votre médecin va peut-être dire qu'il faudrait peut-être freiner la consommation, mais... La voix ancienne, même si elle possède des relents ou des apparences de religion, cette voix, mes amis, gravite essentiellement autour de vous. Vous êtes au centre. Et la vie chrétienne, c'est mettre le Christ au centre. Et parce que vous le mettez au centre, votre vie change, votre regard change. Vous changez. Vos aspirations changent et vous ne cherchez plus les compensations nulle part ailleurs à part en lui. Cette voix ancienne s'intéresse vraiment, vous savez, à ma santé émotionnelle, à ma maturité spirituelle, à la satisfaction de mon âme, à mon bonheur présent, à la réussite de mon ministère, de mes affaires et de ma vie familiale. Elle m'encourage à avoir de l'intelligence, à apprendre à naviguer dans la vie pour que tout se passe bien. Si c'est de cette façon-là que nous fonctionnons, et je pense, parce que je fonctionne comme ça, que la grande majorité d'entre nous fonctionne comme ça, s'approcher de Dieu peut se résumer à se rendre aux urgences de temps en temps pour se faire retirer des calculs rénaux. Et une fois que c'est fait, on se sent soulagé, on dit « merci docteur », mais on a même oublié le nom du docteur. « Merci docteur ». On se sent mieux. Mes amis, j'ai 54 ans. Oui, je sais, je ne les parais pas. Le Seigneur, et quand j'y pense, ça ne me rassure pas, mais le Seigneur est entré dans ma vie il y a 30 ans, au mois d'octobre, dont je fête mon anniversaire. On a fêté notre anniversaire, lui, moi et lui. Il a fait de moi un pasteur, ce qui aux yeux de beaucoup de chrétiens, en tout cas les protestants, constitue le top spirituel. Je serai catholique, parfois je regrette, après 30 ans, je serai au moins cardinal, peut-être même pape. Moi, je pense que j'aurais fait un pape très correct. À la différence de ce pape qui m'aurait précédé, je n'aurais pas une bague, mais 10 bagues. Ils ont des bagues quand même. Oh, au Vatican, on voit des bagues. Magnifique. Hein? Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le pasteur, il sait beaucoup de choses. Ça, c'est le minimum quand même. Et il doit forcément être proche de Dieu. Il se doit d'être le meilleur d'entre nous. Mais je peux vous dire sans prétention aucune que pendant pas mal de temps, j'ai été sur la voie où se trouve Jésus. J'étais sur cette voie à la suite de Jésus. Jésus était avec moi sur cette voie. Pendant très longtemps, ça a été comme ça. Alors, j'étais très loin d'être parfait. Hein. Je ne le suis d'ailleurs toujours pas. J'en savais beaucoup moins à l'époque qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Forcément. Mais ce que je savais à l'époque, mais vraiment, c'est que Dieu m'aimait. Et ça me suffisait. Ça me suffisait pourquoi ? Ça me suffisait pour être heureux. Mais vraiment. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était lui pour lui. Je l'aimais lui, point. Le reste, rien à faire. Je n'avais besoin que de lui. Mais vraiment, hein, de rien d'autre. Ce qui a tout changé, parce qu'il y a un truc qui a changé, et ça va, heureusement que vous êtes assis, ça va peut-être vous troubler ce que je vais dire. Ce qui a tout changé, c'est mon ministère pastoral. C'est comique, hein, alors qu'il m'a appelé à ça. Ça peut paraître fou, mais le fait de devenir pasteur m'a fait passer du chemin de l'intimité avec Dieu à celui de serviteur de Dieu. J'ai changé de chemin. Il ne m'a pas demandé de me remettre sur l'ancienne voie. Je m'y suis mis tout seul, assez vite. J'étais fils de Dieu et j'ai perdu la joie de l'être pour endosser le rôle d'esclave. Je suis un pasteur dont ma motivation a bougé. À l'époque, je ne me suis pas rendu compte. Alors, et ça me rassure, même si ça ne me rassure pas vraiment, de grands hommes de Dieu, bien plus grands que moi, bien plus grands que je ne le serai jamais, sont passés par là avant moi, entre autres François d'Assise. Alors, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais croyez-moi, la fin de sa vie, ça n'a pas été un cadeau entre lui et Dieu, hein, je vous assure. Hein. Alors quel est le problème? Parce que ça peut vous surprendre quand même. Si même les pasteurs sont à côté de leur pompe, où est-ce qu'on va? Ben, il y a les pasteurs qui savent qu'ils sont à côté de leur pompe, et puis ceux qui ne le savent pas encore, et ça c'est encore beaucoup plus grave. Alors quel est le problème? C'est très simple. C'est remplacer Dieu par la mission qu'il vous confie. Voilà. C'était plus lui l'amour de ma vie, c'est devenu l'Église. Après, j'ai vite déchanté, hein, forcément. Aussi, l'Église, c'est les gens. Rechercher le bonheur dans ce que l'on fait pour lui, plutôt que pour lui. Et chemin faisant, vous y perdez quoi? Ben, vous y perdez la joie de servir les autres. Sans compter qu'en ce qui me concerne, et je ne vais pas me plaindre, hein, mais en ce qui me concerne, j'ai vécu de près l'attitude des gens qui étaient supposés que j'avais aimé pendant des années et qui n'ont fait qu'une seule chose, c'est me flinguer. Donc ça aussi, il y a une sorte d'écroulement intérieur. Mais je n'aurais jamais dû être là. J'aurais dû rester stable si je n'étais pas parti quitter la voie à la suite de Jésus. Si j'étais resté avec lui, j'aurais trinqué dans cette période-là. Bien entendu, ce n'était pas possible autrement. Mais je n'aurais pas perdu cette joie. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que c'est exactement l'attitude, et si je parle de moi, c'est pour vous mettre à l'aise, que vous ne vous disiez pas que vous ramez tout seul. Hein, voilà. C'est exactement l'attitude du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Vous savez, celui qui ne s'en va pas. Le fils qui, au contraire de son frère cadet, n'a pas brisé le cœur de son frère, de son père, pardon, en quittant la maison. Il n'a pas dilapidé son héritage dans une vie de débauche. Il n'a pas fait ça. En apparence, le fils aîné n'a jamais rien fait de répréhensible. Et il est même, aux yeux de tous, le meilleur des fils de la famille. Par contre, il sert son père au mieux par devoir et au pire par intérêt. En tout cas, apparemment, dans la parabole, il n'a pas beaucoup de joie à servir son père. Le fils aîné possède tout ce que possède son père parce qu'il est son fils. C'est notre cas, hein, mes amis. Mais il vit sa vie de fils et sa filiation comme un esclavage et il ne le voit pas, il n'en est pas conscient. Il a une mentalité d'esclave. Et dans le contexte de la parabole, c'est ce que Jésus veut rappeler à ses interlocuteurs. Rappelez-vous, Israël, votre peuple au désert, là où Dieu dit tout est bon, lui dit tout a un drôle de goût quand même. Voilà ce qu'a dit John Owen, un pasteur, encore un anglais, je suis un fan, du 17e, concernant le ministère pastoral. Et si je me cite ça, c'est parce que je pense que c'est valable pour tout le monde, pas seulement pour les pasteurs, mais certainement, si c'est valable pour les pasteurs, mes amis, c'est valable pour chacun d'entre nous. Hein. Un pasteur peut remplir les bancs de son église, allonger la liste des personnes baptisées et nourrir à satiété son public, mais est-ce que le pasteur est à genoux dans le secret devant le Dieu Tout-Puissant, voilà ce qu'il est, et rien de plus. Il y a des, honnêtement, hein, parce qu'à un moment on peut savoir les choses sur des pasteurs qui ont un long ministère. Il y a des pasteurs parce qu'ils l'ont finalement avoué ou ils ont écrit un livre sur le sujet. Et je n'ai pas d'explication rationnelle parce qu'encore une fois, on n'est pas sur la loi. On n'est plus sur l'ancienne voie. Il y a des pasteurs qui sont à la tête, qui ont été à la tête d'églises, qui ont grandi, des 20 000, 25 000, 30 000 membres. Des conversions toutes les semaines, des baptêmes, des centaines de baptêmes, ça existe, hein. Et quand vous grattez à un moment, parfois le pasteur, en fin de ministère, il écrit un livre, il dit, mais vous savez, moi je ne sais pas pourquoi Dieu a béni, parce que moi je n'ai jamais été sur la voie derrière Jésus. Moi j'ai aussi été mangé par mon ministère. C'est tout ce qui comptait, Dieu à la limite. Nous sommes ce que vaut notre intimité véritable avec Dieu. Ni plus, ni moins. Et si Dieu bénit, même si vous n'êtes pas assez proche de lui, ben, il bénit. Parce qu'il est obligé, enfin quelque part, puisqu'il a choisi le chemin de l'Église pour se révéler, il est clair qu'il ne va pas arrêter son œuvre de salut au monde parce que nous sommes des andouilles. Hein. Il y a quand même parfois des trucs qui vont encore passer, il va se servir de certaines choses. Mais nous sommes ce que vaut notre intimité véritable. Je suis convaincu de ça depuis des années. Au ciel, si les récompenses et la proximité avec Dieu, le fait d'être plus proche de lui que certains autres, il y a des hommes et des femmes, hein, chrétiens, des chrétiennes, dont on ne parle pas, qui n'ont pas de ministère dans l'Église, visible comme le mien, par exemple, ce matin, des gens qu'on oublie, mais qui sont des gens qui sont tellement proches de Dieu, ils le seront au ciel aussi. J'en suis convaincu de ça. On va prendre un passage dans l'évangile de Luc, si vous voulez bien. J'ai relu ce passage il y a deux semaines, ouais, dans ma lecture personnelle. Et ouais, la parole de Dieu, elle est vivante, donc à un moment, je vais vous expliquer après. Voilà ce que dit Jésus. « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. » Ça veut dire « soyez prêts. » Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de le ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou bien à tout le monde ? Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, je me dis « aïe, 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 aïe ». Non ? Bah, pas moi qui, c'est Jésus qui parle, pas moi. Quand moi, je lis ça, je me dis « on devrait peut-être commencer à… » Enfin, je devrais peut-être commencer à m'inquiéter un petit peu. Pourtant, quand j'ai relu ce passage il y a deux semaines, ce n'est pas la crainte qui est montée en moi. Pourrait, parce que c'est quand même radical, hein. Alors, soit on y croit, si on n'y croit pas, ben c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, ouais, c'est des conneries. On a modifié les textes. Jésus n'a jamais pu dire ça. Il est amour. Comment il pourrait être exigeant comme ça? Enfin, soit. Mais si on pense vraiment que ce sont les paroles du Christ, là, on pourrait s'inquiéter. Eh ben, moi, c'est pas de l'inquiétude qui est montée en moi, c'est de la tristesse. J'ai pas eu peur en lisant ça. Je me suis senti triste. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit que si on aime, c'est tout ce que Jésus dit pour moi, si on aime vraiment quelqu'un, si on l'aime vraiment, si on attend vraiment quelqu'un, si on l'espère ce quelqu'un, alors ce quelqu'un ne peut pas nous surprendre. Vous avez rendez-vous avec un ami à 8h du soir, à 8h il n'est pas là, mais vous aimez cet ami, à 9h il n'est pas là, vous n'allez pas dormir, vous allez passer une nuit blanche, mais vous allez l'espérer, vous n'irez pas dormir, vous resterez éveillé. Ceux qui vont s'endormir ou qui seront endormis quand Jésus reviendra, ce sont ceux qui ne l'aiment pas. Je pense ça. Et pourquoi je me suis senti triste? Parce que moi, je ne suis pas certain que je serai éveillé quand il reviendra. Je ne peux pas dire ça aujourd'hui. Ça me concerne moi, hein, vous, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je serai éveillé. Je ne peux pas promettre ça. Je ne peux plus promettre ça. Vous savez, dans mon immeuble, on a un ascenseur qui nous a déjà coûté très cher parce qu'on a dû le mettre aux normes. Et cet ascenseur a toujours fait un boucan énorme quand il fonctionnait. D'ailleurs, même quand il ne fonctionnait pas. Et bon, il était purement mécanique, mais écoutez, moi, bon, on a dû le mettre aux normes. Donc maintenant, enfin, on s'est dit, bah, au moins, il fera moins de bruit. Ben non, il fait un bruit différent, mais il fait autant de bruit. Eh bien, figurez-vous que ce bruit nous sert à Isabelle et à moi. Ben, c'est pas ce que je vais dire, mais... Parce que quand elle est à l'école ou ailleurs en soirée, à un rayon de prof ou n'importe quoi... Et c'est inversement, quand moi je suis par la maison, elle y est, on sait que l'autre arrive parce que l'ascenseur fait du bruit. Et vous savez ce qu'on fait à ce moment-là? Et c'est un jeu parfois. Au moment où j'arrive à la porte, je prends mes clés et juste au moment où je vais mettre, elle ouvre la porte. Coucou! Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'attend. On s'espère. C'est beau ce que je te dis, ma chérie. On s'espère quand même un petit peu. Comprenez? Alors, Jésus ne nous a pas laissé un ascenseur spirituel pour entendre le bruit. Et je ne suis pas certain qu'il prendra un ascenseur quand il reviendra. Pour descendre peut-être, pour remonter, je ne sais pas. Faites régime si, au moment de l'enlèvement, on va être aspiré. Donc, voilà. il faut tenir compte de tout. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai déjà jusqu'à très vite assez plombant. Donc je ne suis pas, je vais redevenir sérieux, je ne suis pas certain aujourd'hui que je fasse partie de ceux qui seront éveillés à son retour. Et moi, j'ai un truc à mettre en plus par rapport à ce que je lui ai dit, et je fais pourtant partie de ceux qui ont le plus reçu. C'est bien d'avoir un QI de 175, mais je suis plus, il me demande plus qu'aux autres. C'est bien d'avoir reçu ce ministère, avec moi une spécialité, la cure d'âme, mais je dois aimer les gens plus que les autres. Donc à chaque fois, mes amis, que j'estime mon épanouissement personnel ici et maintenant comme étant ce qu'il y a de plus important, c'est la voix du dragon que j'écoute. Et pourtant, deux petits versets dans l'Épître aux Hébreux. Ainsi, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile. Donc cette ancienne voix, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, cette voix, elle a été abolie, elle est fermée. Parce qu'elle était faible et inutile, la loi de Moïse, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mais une espérance meilleure nous a été accordée et grâce à elle, nous pouvons nous approcher de Dieu. Cette plus grande espérance, c'est l'œuvre du Christ. C'est la promesse et la réalité du don de l'Esprit Saint. Et grâce à ça, il dit, nous pouvons nous approcher de Dieu. Avec l'ancienne voie, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Nous pouvons. Nous pouvons nous approcher de Dieu car nous avons revêtu le Christ. Mais j'ai l'impression que dans cette perspective-là, on titube parfois, un peu comme, c'est une image qui m'est venue, comme notre ami Lazare, enfin surtout l'ami de Jésus, quand il l'a ressuscité dans l'évangile de Jean. Nous sommes couverts de bandelettes, c'est pas facile d'être vivant quand on est couvert de bandelettes, quand on a du mal à abandonner la mort derrière nous. Nous avons du mal à laisser l'Esprit de Dieu nous rendre vraiment vivants. Parce que vivants, nous sommes habités d'une nouvelle vie. Paul le dit si bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est à ça que je fais allusion quand je parle parfois de devenir la nouvelle version de nous-mêmes, devenir ce que Dieu a fait de nous. Je sais bien que ça peut paraître paradoxal aussi, mais c'est toujours comme ça dans la vie avec Dieu. Il y a toujours ce qu'il a fait, ce qui est et s'est fait, mais à partir de là, on doit quand même devenir ce qu'il a fait de nous. C'est un peu comme installer un nouveau programme sur un ordinateur. Une fois le programme installé, nous y avons accès et nous pouvons l'utiliser. Encore faut-il se rappeler qu'il est disponible et cliquer sur l'icône pour ouvrir le programme. Et ça peut paraître fou de ne pas utiliser un nouveau programme qu'on vient d'installer. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un programme qu'on vient d'installer ? C'est idiot, non ? Mais je pense que quand on ne le fait pas, la raison en est simple, nous avons tellement fonctionné pendant tellement d'années sans ce programme. On continue à fonctionner sans. Nous avons pris tellement l'habitude d'utiliser notre ancien programme, notre ancienne nature, que pour nous c'est quasi un réflexe. On n'y pense même pas. On fonctionne à partir de ce que nous étions et pas à partir de ce que nous sommes. Il y a pourtant une icône plus brillante que les autres qui clignote sur le fond d'écran de votre vie. Apprendre à laisser vivre cette nouvelle vie de l'Esprit en nous. C'est ça le quotidien de la nouvelle voie inaugurée par notre Seigneur Jésus. Une voie d'intimité et de relation avec Dieu qui nous fait ressembler de plus en plus à son Fils. Ressembler à Jésus, n'être plus qu'un avec lui. Alors rassurez-vous, ce sera toujours vous, enfin ou nous, moi, mais avec le nouveau logiciel ouvert et fonctionnel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.